Bienvenue dans l'émission Les bruits de l'atelier. Une émission réalisée par des adhérentes et des adhérents de l'association Valence Atelier Libre. Le Val, c'est un atelier en centre-ville de Valence, au 13 bis rue Montplaisir, où on fait du partage de savoir-faire avec une vingtaine d'ateliers divers et variés proposés chaque mois. C'est aussi une matériothèque à Montméran, où des matériaux de construction qui étaient voués à la déchetterie sont mis à disposition à prix libre. Dans cette émission, nous interviewons des personnes qui sont passées à l'association. Elles nous parlent de ce qui s'y passe et, parfois, nous dévoilent quelques traits de leur personnalité. Salut Jean-Yves.
Et salut.
Alors, tu es un des membres actifs du Valence Atelier Libre. Et du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais dans l'association Valence Atelier Libre.
J'ai une première activité, on va dire, qui va être la transmission de savoir-faire de mon métier, qui est la mécanique automobile. Et il y a une deuxième activité qui est membre du collectif administratif, s'occuper un petit peu de tout pour que l'asso elle tourne et que ça se passe bien.
Qu'est-ce qu'il y a comme outillage pour la mécanique automobile au Valence Atelier Libre ?
Il y a plein d'outillages en fait. Mais c'est surtout des outils spécifiques à l'automobile. On va pouvoir faire vraiment quasiment tout sur une voiture, à part démonter un moteur, mais faire un embrayage, faire une distribution, des freins, des échappements, des vidanges. Au fur et à mesure des années, on s'équipe de plus en plus, donc on arrive à avoir pour quand même beaucoup de modèles de voitures, et même les plus récentes. On a un ordinateur de diagnostic, on peut se brancher pour les pannes électroniques. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une presse hydraulique pour faire les roulements, C'est très complet quand même, il y a de quoi faire toutes les purges de frein, il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'outillages.
Et quand les adhérents et les adhérentes viennent faire de la mécanique, comment ça se passe dans l'ordre des choses? On reçoit des demandes, comment ça évolue?
Oui, on fonctionne beaucoup avec les mails parce qu'on est des bénévoles et qu'il faut s'accorder sur nos disponibilités avec les adhérents. Et donc il y a une première demande par mail de l'adhérent qui va expliquer ce qu'il a à faire sur sa voiture ou sa camionnette. Et après il y a l'idée de trouver un créneau horaire qui correspond aux deux personnes. Et après, il y a une première présentation sur le jour même, sur le lieu. Il y a bien sûr l'adhésion si la personne n'est pas adhérente. Et puis toute une phase d'explication comment fonctionne l'association.
Et toi, dans ces moments-là, du coup, tu vas recevoir le mail. Tu vas répondre à la personne qu'on vient d'un rendez-vous. Et une fois dans le rendez-vous, comment ça va se passer exactement? C'est toi qui fais les réparations? C'est la personne? Explique-nous un petit peu, pour rendre peut-être un exemple.
Dans l'idée, il y a quand même... C'est une asso qui fait du partage de savoir-faire et de connaissances. Donc dans l'idée, c'est pas à moi de faire la réparation des véhicules, c'est plutôt à moi d'apprendre aux gens à faire eux-mêmes leur réparation et à être autonomes. De plus en plus, avec le temps, ils vont prendre confiance en eux et donc ils vont moins hésiter, puis ils vont savoir les choses. Et le but, c'est qu'à la fin, ils viennent tout seuls sur l'espace méca et utiliser les outillages et faire ou leur vidange ou leur frein, enfin n'importe quoi. Mais qu'avec le temps, ils aient appris à le faire et qu'ils sachent le faire eux-mêmes, quoi.
Donc tu leur montres un petit peu, tu leur donnes des explications et c'est eux qui font.
Ouais, c'est ça. Il y a une première chose importante, c'est que je leur explique comment fonctionne le pont, parce qu'il y a un pont élévateur ovale et automatiquement, c'est un outil que les gens chez eux, ils n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Donc, il y a quelques règles à expliquer. Et puis après, tout doucement, on attaque. Si je prends l'exemple d'une vidange, étape par étape, j'explique et je laisse faire la personne pour qu'elle apprenne et qu'elle sache comment faire. Et surtout, c'est une manière pour que l'adhérent ou l'adhérente, elle rentre dans sa tête tous les gestes et la logique, parce que la mécanique, c'est beaucoup une logique. D'arriver à comprendre comment ça marche, la logique, et ça permet après soi-même de pouvoir chercher et pas oublier comment on avait fait la dernière fois, par exemple.
Et est-ce que tu as un chantier qui a été particulièrement spécial ou une anecdote d'un chantier qui était plutôt rigolo ou peut-être un peu difficile? Est-ce qu'il y a eu des moments forts en fait dans cet atelier mécanique?
Il y a beaucoup de moments un peu spéciaux parce que je pense que chaque adhérent est différent, chaque voiture est différente. On peut avoir les deux mêmes modèles de la même année, mais qui n'ont pas roulé aux mêmes endroits, qui n'ont pas été utilisés de la même manière. Il y a souvent des galères, mais ça, c'est dû au fait qu'on n'entretient pas assez régulièrement ces véhicules. Mais c'est ça aussi qui est bien et qui est valorisant, c'est d'arriver à trouver les solutions, les techniques pour passer outre les galères et puis pour que... En fait, quand la voiture et l'adhérent ils ressortent du Val, ils soient contents. Et en gros, depuis environ 4 ans que j'y suis, il n'y a jamais eu aucun retour de véhicule. Toutes les réparations qui ont été faites dans cet atelier n'ont jamais eu besoin d'y revenir et ça a toujours bien fonctionné.
Alors ça, c'est super quand même. Je pense que même un garage professionnel, c'est pas dit qu'il ait toujours le même taux de réussite. Il y a sûrement de temps en temps un petit retour. Comment ça marche au niveau financier? Est-ce que c'est prix libre? Une fois que les gens sont adhérents, est-ce qu'ils ont une participation particulière par rapport à la mécanique? Et comment les gens évaluent ce prix libre?
Alors déjà, oui, en fait, c'est... Donc il faut être automatiquement adhérent, c'est le seul prix fixe qu'il peut y avoir dans l'année au niveau de l'association, c'est l'adhésion qui est de 25 euros à l'année. Après oui c'est un prix libre, alors le prix libre il se calcule déjà avec le temps qu'on a mis, le temps qu'on a utilisé les outils, il se calcule aussi en essayant d'avoir conscience combien ça pourrait nous coûter dans un garage. Pour ça il y a plusieurs méthodes, on peut appeler directement les garages et demander un devis. Donc ça, généralement, c'est une démarche qui est à faire par l'adhérent. Et sinon, il ou elle peut très bien faire des devis sur Internet. Il y a des sites qui font des devis. Alors, il faut savoir que les sites sur Internet, ce n'est pas très, très précis. Et que y a quand même, c'est le commerce, il y a une concurrence qui est libre. Et qu'un garage peut facturer une vidange 50 euros. Et le voisin va la facturer 150. Donc... En gros, il faut se méfier, puis il faut être assez, relationnel. Moi, j'ai une grande habitude des prix, donc je peux conseiller pour dire, non, lui, le devis, il est un peu exagéré, ou lui, il est correct. Et puis après, en fait, ça reste une idée de prix libre. Donc on a une conscience du prix que ça peut coûter ailleurs, mais il faut aussi se dire que le prix libre, c'est fait pour qu'on allie la conscience et ce qu'il y a dans notre porte-monnaie. Et notre pouvoir d'achat qu'on a, il peut être plus ou moins grand suivant le salaire, suivant la
situation dans laquelle on se trouve.
La situation de chaque adhérent, ouais, tout à fait.
Donc le prix libre, en fait, il se monte petit à petit en ayant conscience des tarifs extérieurs, si j'ai bien compris, mais en prenant aussi conscience de sa situation personnelle. Qui peut être soit j'ai pas beaucoup de moyens, du coup je vais mettre une somme peut-être inférieure à ce que ça aurait pu coûter, ou parfois on peut peut-être se dire moi j'ai bien les moyens, et du coup comme je veux faire profiter cette association, je vais mettre peut-être un petit peu plus ou quelque chose comme ça.
C'est ça, tout à fait. Il y a juste une chose à rajouter, c'est que un jour, on peut avoir une belle situation professionnelle et avoir beaucoup de sous, et puis on vient faire sa vidange et on met beaucoup dans le prix libre, où on met ce qu'on pense juste. Et puis un autre jour, on n'a plus du tout cette aisance financière. Et par contre, l'idée de l'association, c'est que bah, même si tu n'as pas beaucoup de sous, viens quand même faire les réparations de ta voiture, viens quand même entretenir ta voiture. Ne reste pas chez toi en te disant « Ah, j'ai pas de sous, je peux pas y aller ». Parce qu'en fait, il y a aussi cette idée d'aider les gens. Et donc, du coup... de se dire que bah, si aujourd'hui tu peux pas mettre beaucoup, bah, c'est pas grave, tu l'oublieras pas, et puis la prochaine fois que tu viendras, tu mettras un peu plus, et voilà, on est là aussi pour aider, donc du coup, il faut pas être non plus trop bloqué sur l'idée du prix libre, et si un jour on peut mettre beaucoup, bah, on met beaucoup, et c'est super pour l'asso, parce que ça la fait vivre, et qu'elle en a besoin, mais si un autre jour on peut pas, et bah, il faut pas se mettre des barrières, et il faut venir.
Ok. Et alors, tu nous disais que c'était ton métier d'être mécanicien. Est-ce que tu exerces encore ce métier aujourd'hui ? Quel a été ton parcours là-dedans, en fait ? Comment tu es rentré dans la mécanique automobile ?
Bah, un petit peu comme beaucoup de mécaniciens, y a eu la phase d'apprentissage où j'étais en alternance chez un patron et à l'école dans un CFA. Il y a eu l'obtention des diplômes et puis après bah, j'ai été salarié dans plusieurs garages et dans plusieurs domaines en fait parce que moi ce que j'aime c'est pas la monotomie, ce que j'aime c'est changer, c'est apprendre, donc je suis passé de l'automobile au poids lourd, aux engins de travaux publics, puis je suis retourné à l'automobile, puis un jour j'ai eu envie de me lancer à mon propre compte, donc j'ai créé mon garage automobile. C'était très fatigant tout seul, donc j'ai arrêté. Et quand j'ai arrêté, j'ai rencontré l'asso, j'ai appris ce qu'il faisait, et j'ai trouvé ça génial, en fait, de pouvoir apprendre à faire de la mécanique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, comme des vidanges, comme des freins, comme changer un échappement. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à faire soi-même. Et donc, ça allait vraiment en lien avec mes idéaux. Et quand j'ai rencontré l'asso, bah, je l'ai tellement apprécié, je l'ai tellement aimé, j'ai tellement eu un coup de cœur que depuis, j'y donne quasiment tout mon temps.
Donc aujourd'hui, tu n'es plus mécanicien professionnel, mais tu es bénévole mécanicien en donnant beaucoup de temps à l'association.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est pour les lourds, les gros. F-U-E-G-O, c'est pour les lourds, les gros, pour tous ceux qui ont pas peur d'en avoir sous le capot. C'est pour les têtes brûlées, les Fangio. Mon nom est Fuego, c'est pour les pros, pas les amateurs, pour tous ceux qui ont pas peur de faire hurler le moteur. C'est pour les courses poursuites, les rodéos. Mon nom est Fuego. 1980, naissance du mythe, la digne héritière de la R18. La première fois que je l'ai vu, ça m'a fait un choc. La fusion parfaite entre une voiture et Robocop. À l'époque, c'était frustrant, je pouvais pas la conduire. Un ange avec 6 ans, mais j'ai eu le permis, j'ai réuni l'argent. J'suis passé du rêve de petit au paradis pour grand. Maintenant c'est la fête et je pince de la tête sur le gros son qui pète de mon poste radio cassette. Quand je la démarre, le tonnerre gronde en 82, le turbo diesel le plus rapide au monde. La mienne, une GTX 2 litres turbo. Y'a 130 poneys sous le capot. À n'importe quel feu, j'te fume. Et j'démarre 11 secondes pour pas laisser trop de gomme sur le bitume. C'est pour les lourds, les gros, pour tous ceux qui ont pas peur d'en avoir sous le capot. C'est pour les têtes brûlées, les Fangio. Mon nom est Fuego, c'est pour les pros, pas les amateurs. Pour tous ceux qui ont pas peur de faire hurler le moteur, c'est pour les courses-poursuites.
Tu nous disais aussi au début que tu es membre du collectif d'administration de l'association, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour toi, ce que ça veut dire en termes de qu'est-ce que tu dois y faire, et puis peut-être pourquoi tu fais ça ?
Ben, cette association, pour qu'elle puisse vivre, elle a besoin de personnes qui s'occupent des démarches administratives, qui s'occupent des salariés, qui s'occupent de créer un programme avec des activités. Et en fait, tout ça, ça se fait pas tout seul. Il y a besoin de personnes actives, très actives même, pour pouvoir faire fonctionner cette station qui a deux lieux. c'est aussi d'avoir deux lieux, c'est une charge plus importante. Et donc, l'idée, c'est de se réunir tous les mois, c'est de discuter des projets à venir, c'est de discuter aussi des fois s'il y a des choses qui vont pas, de comment on pourrait les régler, comment on pourrait changer notre manière de faire pour que en fait tout le monde soit content. Et en gros, d'être, à mon avis, d'être dans le collectif administratif, c'est une responsabilité qu'on va mettre en commun, parce que je ne suis pas tout seul à être président, je suis co-président, il y a plusieurs personnes. Et en fait, c'est d'avoir une responsabilité à plusieurs. D'une, pour que l'asso elle continue et qu'elle perdure le plus longtemps possible. Et de deux, pour gérer tout ce qui est l'aspect financier de l'asso, puisque on est une asso qui avons décidé de ne pas être énormément aidé par des subventions. Donc on est à 98-99% d'auto-financement par nous-mêmes. Donc il y a aussi une idée de responsabilité pour pas que l'asso elle coule, pas gérer les finances de l'association.
Et vous voyez donc tous les mois avec le collectif d'administration, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tous les mois. Généralement, c'est aux alentours du 23. C'est une date qui est née depuis la création de l'association. Et du coup, c'est la date où se réunit le collectif administratif.
Et est-ce que quand on est quelqu'un, un adhérent ou quelqu'un même de l'extérieur, qu'on est intéressé par le fonctionnement et peut-être venir mettre sa main à la pâte dans l'association, on peut venir à ces réunions ?
Bah, c'est peut-être même la meilleure façon de faire pour savoir comment fonctionne tout ce qui est la question interne de l'association. C'est bien sûr de venir demander à participer à ces réunions. Il faut savoir qu'on est une asso où on tient vraiment à cœur d'être de manière très horizontale. Tout le monde a exactement le même droit à la parole, tout le monde a le droit à donner ses idées. Et en fait, on est transparent sur tout ce qu'on veut faire. Et du coup, en fait, n'importe qui peut venir assister à ces réunions. Et donc, on ne cachera jamais n'importe quoi au niveau des... On sera toujours transparent au niveau de nos choix et des prises de décision qu'il y aura dans cette association.
Si on parlait maintenant aussi de ta vie extérieure à l'asso, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? En fait, aujourd'hui, je suis venu chez toi. Donc, tu habites sur un joli terrain dans une forêt. Je pense que les auditeurs, les auditrices entendent depuis tout à l'heure les oiseaux, aussi le coq qui chante au fond, un petit peu le vent et on a un petit peu de pluie aujourd'hui. Tu habites ici et je crois que tu habites dans un habitat léger.
J'habite dans un petit terrain de 3000 m² qui est complètement boisé, c'est une petite forêt. J'ai un lien très important avec tout ce qui est la nature, la terre. C'est là que j'y trouve ma sérénitude, c'est là que je viens me recharger en énergie. Et oui, je vis en camion. C'est une vie qui est beaucoup liée d'une à l'autonomie, aussi un peu à l'écologie, au respect de tout ce qui est autour de nous. Je suis assez minimaliste, donc en fait, j'ai pas besoin de grand-chose, d'un poêle, d'un panneau solaire, et pour avoir un petit peu d'électricité. Et en fait, j'aime énormément cette manière de vivre. Je suis un peu un ermite de cette manière-là, mais voilà, c'est ma manière de vivre.
Fantastique. Donc en fait, tu n'es même pas raccordé au réseau électrique, ni au réseau de l'eau. Tu as une forme d'autonomie qui est assez poussée.
Ouais, c'est exact. J'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau potable au niveau du réseau. Et je pense en fait, pour certains, ça peut être un confort et ça peut être dérangeant de pas avoir d'électricité ou d'eau potable. Mais avec tous les gens que je connais autour de moi, qui vivent en appartement ou en maison ou en collectif, j'ai très facilement moyen d'accéder à l'eau. Et au niveau électricité, bah, j'avoue que l'idée d'avoir un petit peu d'électricité grâce au soleil, à la lumière, pour moi, c'est bien plus valorisant que d'avoir l'électricité qui vient d'une centrale ou autre. Donc, en effet, je vis comme ça, ouais, sans rien.
Eh bien, on arrive à la fin de l'émission et y a une petite coutume dans cette émission. On a une question finale qui peut déstabiliser un petit peu. La question, c'est, si tu étais un outil, lequel serais-tu ?
Waouh ! Comme ça, instinctivement, je dirais plutôt par rapport au moment passé dans cette association. Souvent, quand il y a quelque chose qui ne veut pas se desserrer à cause de la rouille ou qui est trop serti, encastré dans une pièce de voiture, moi, on m'appelle souvent Jean Massette. Donc, je pense que mon outil préféré, ça serait la massette, quoi, ouais.
Trop bien, parce qu'il débloque tout en fait.
Et ouais, c'est ça.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves.
Merci à toi.
Salut.
Allez, bye bye.
Eh bien, nous, on va vous dire à la prochaine, dans un mois. Ça fait long, mais ça dépend de vous aussi. Alors, si vous voulez participer à l'émission et venir nous rendre visite, découvrir le Val, l'atelier magique, c'est www.vatelier.fr ou contact@vatelier.fr ou alors pour les courageux, à vélo ou à pied, c'est 13 bis rue Montplaisir à Valence. C'est perpendiculaire à l'avenue de Romain. À la prochaine !